Chapitre 8. Les chapitres 6 et 7 ont présenté les grandes vérités de l'incarnation et de la mort du Seigneur, de son ascension et de sa gloire. En relation avec ces vérités, nous apprenons que le temps de sa manifestation publique comme Messie n'était pas encore venu. Dans l'intervalle, pendant que Christ est absent dans la gloire, le Saint-Esprit est donné et vient habiter dans les croyants, afin qu'il soit une source de bénédiction dans un monde stérile, privé de la présence de Christ. Dans les chapitres qui suivent, Christ est présenté comme la lumière du monde. Chapitre 8, verset 12, chapitre 9, verset 5. La lumière était exprimée dans ses paroles et dans ses œuvres. Hélas, la lumière est refusée en ce que la nation rejette entièrement tant les paroles que les œuvres de Christ. Dans ses dernières instructions de la chambre haute, le Seigneur déclare clairement à ses disciples que ses paroles et ses œuvres sont les deux témoignages à la gloire de sa personne qui, s'ils sont rejetés, laissent le monde sans excuse. Il dit « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas eu de péché. » Et il ajoute « Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché. » Chapitre 15, versets 22 et 24. Rejeter ses paroles et ses œuvres ne signifie pas seulement refuser les vérités qu'il enseignait, mais c'est le rejeter lui-même, car les paroles et les œuvres proclament sa gloire comme personne divine et son origine en tant qu'envoyé du Père. Au chapitre 8, ses paroles sont rejetées. Au chapitre 9, ses œuvres le sont. Le caractère divin de Jésus comme la lumière du monde, démontré par ses paroles, constitue le grand thème du chapitre 8. Et le caractère diabolique des Juifs est manifesté par la manière dont ils reculent devant la lumière, rejettent les paroles du Seigneur et prennent des pierres pour le lapider. Versets 1 à 11. Citation de l'Écriture. Et Jésus s'en alla à la montagne des Oliviers. Et, au point du jour, il vint encore au temple, et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Et les scribes et les pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère, et l'ayant placée devant lui, ils lui disent « Maître, cette femme a été surprise sur le fait même, commettant adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Or, il disait cela pour l'éprouver, afin qu'ils eussent de quoi l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme ils continuaient à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Et eux, l'ayant entendu, sortirent un à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'au dernier. Et Jésus fut laissé seul avec la femme devant lui. Et Jésus s'étant relevé et ne voyant personne que la femme lui dit « Femme, où sont-ils ceux-là, tes accusateurs ? Nul ne t'a-t-il condamné ?» Et elle dit « Nul, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, dorénavant, ne pêche plus. » Fin de citation. Après le magnifique témoignage du chapitre 7, chacun, quelle que soit son attitude envers Christ, s'en alla à sa maison. Laissé seul, Jésus se retire à la montagne des Oliviers. De là, au point du jour, il revient au temple. Le peuple se rassemble autour de lui et il s'assied au milieu de ses gens pour les enseigner. Le temps n'était pas encore venu pour Christ de s'asseoir sur son trône comme juge. L'histoire de la femme surprise en adultère suit immédiatement. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre après chapitre, l'Esprit de Dieu utilise un incident pour introduire une nouvelle vérité. Ainsi, dans ce passage, l'histoire de la femme et ses accusateurs, qui illustrent l'effet de la lumière sur tous les hommes, sert d'introduction à la grande vérité que Christ est la lumière du monde. Les scribes et les pharisiens amènent une pauvre pécheresse au Seigneur et la placent devant lui. Ils exposent au Seigneur ce que Moïse a commandé à l'égard de telle femme, mais demandent « Toi, que dis-tu ? » Nous apprenons ensuite le vrai motif de leur action et de leurs paroles. Ils disaient cela pour l'éprouver, afin qu'ils eussent de quoi l'accuser. Ils se déclarent choqués par un péché aussi flagrant et se montrent très désireux de faire ce qui est juste selon Moïse. En même temps, ils prétendent accorder un grand poids aux paroles du Seigneur puisqu'ils demandent « Que dis-tu ? » En réalité, ils n'agissaient ni par haine du péché ni par amour pour le pécheur. Ils éprouvaient très peu de respect pour Moïse et encore moins de considération pour les paroles du Seigneur. Leur motif réel était de trouver un sujet d'accusation contre le Seigneur. Dans ce mauvais état d'esprit, ils lui amènent cette femme coupable, la dénoncent d'une manière honteuse devant tout le peuple et invitent le Seigneur à juger la coupable. Rien ne saurait surpasser la méchanceté de ces hommes qui espéraient impliquer le Seigneur dans un dilemme sans issue. Ils s'imaginaient qu'ils devraient porter atteinte soit à l'autorité de la loi qui condamne le pécheur, soit à son propre caractère comme le Sauveur venu pour manifester la grâce au pécheur. S'ils refusaient de condamner la femme, ne rejetaient-ils pas l'autorité de Moïse et ne se mettaient-ils pas en opposition avec la loi ? S'ils la condamnaient, ne reniaient-ils pas sa grâce comme Sauveur et ne mettaient-ils pas la loi en opposition avec lui ? Dans les deux cas, ils espéraient trouver un motif pour condamner le Seigneur. Ces hommes religieux se tiennent devant le Seigneur comme les instruments de l'inimitié de Satan contre Christ. N'éprouvant aucune horreur du péché et aucun amour pour la sainte loi de Dieu, ils sont tout prêts à se servir du péché de la femme et de la loi de Dieu dans leurs efforts pour condamner Christ. Le Seigneur ne répond pas directement à la question de ces hommes méchants. Il se baisse et écrit sur la terre, comme si elle le laissait indifférent. Il leur accorde ainsi du temps, afin qu'ils pèsent leurs questions et leurs motifs. Insensible à ce délai qui aurait pu leur servir d'avertissement, si telle est bien la signification de l'action du Seigneur, il continue à l'interroger. Alors, refusant d'être le juge et gardant la place de celui qui enseigne, le Seigneur agit comme la lumière du monde, par laquelle l'homme est mis à nu et Dieu révélé. Premièrement, le Seigneur maintient l'autorité de la loi à laquelle ces hommes avaient fait appel. Que la loi soit appliquée, seulement que ceux qui l'exécutent veillent à ne pas être eux-mêmes condamnés par elle. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. De nouveau, le Seigneur se baisse et écrit sur la terre. Une telle action indique peut-être qu'il voulait consigner par écrit ses paroles, afin que ceux qui l'entendent aient le témoignage aussi bien de la parole écrite que de la parole orale. Deuxièmement, nous voyons l'effet de la parole de Dieu sur ses opposants à Christ. Ils sont totalement démasqués et condamnés comme pécheurs. Ils auraient certes pu faire valoir la loi à l'égard du péché particulier de la femme, mais en présence de Christ, la lumière, ils découvrent que la loi est une épée qui coupe ceux qui s'en servent. La loi même par laquelle ils cherchaient à condamner la femme les condamne. Elle prouve que tous sont pécheurs, et par elle toute bouche est fermée. Ainsi les paroles du Seigneur atteignent chaque conscience, convainquent chacun de péché et ferment toutes les bouches. Hélas, dans ce cas, bien que la conscience soit atteinte, la volonté reste inchangée. En conséquence, ils sortirent un à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'au dernier. Celui qui avait le plus de péchés à son compte sort le premier. Les autres suivent. Ils ne peuvent pas supporter la lumière qui découvre leurs péchés. Ils ne veulent pas de la grâce qui pouvait y répondre. Ils quittent la lumière de sa présence pour marcher dans les ténèbres du monde. Troisièmement, pécheresse réduite au silence et convaincue, la femme est laissée seule en présence du Sauveur qui refuse de la condamner. L'histoire ne dit pas si elle s'est emparée, par la foi, de la grâce qui était en Christ. Nous savons seulement qu'elle se trouve dans la présence de celui qui est venu non pas pour condamner le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Versets 12 à 20. Citation de l'Écriture. Jésus donc leur parla encore, disant, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens donc lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus répondit et leur dit, « Quoique moi je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens et où je vais. Vous, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si aussi moi je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. Et il est écrit aussi dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Moi, je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. » Il dit ces choses dans le trésor, enseignant dans le temple, et personne ne le prit, parce que son heure n'était pas encore venue. Fin de citation. Ceux qui s'opposaient activement à Christ, ayant quitté le temple, le Seigneur continue à enseigner le peuple. L'incident en relation avec la femme devient l'occasion de manifester le Seigneur comme la lumière qui découvre tous ceux qui viennent dans sa présence. Le Seigneur déclare maintenant formellement qu'il est la lumière du monde. La présence de Christ au milieu des ténèbres du monde signifiait que l'homme était complètement mis à nu et Dieu pleinement révélé. Comme ceux qui viennent de quitter la présence du Seigneur, la plupart des hommes trouvent la lumière intolérable et préfèrent se cacher à l'abri des ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. Toutefois, le Seigneur peut dire « Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La vie parfaite du Seigneur était en elle-même la lumière qui faisait connaître le Père. Chapitre 1, versets 14 et 18. Mais ces paroles indiquaient encore que celui qui suivait en pratique le Seigneur posséderait en lui-même la vie, avec la lumière dans son âme, celle-ci étant le résultat de la vie. Rejeter Christ signifiait rester dans les ténèbres. Suivre Christ, c'était avoir la lumière de la vie. Le Seigneur a présenté la grande doctrine qui a été illustrée par le cas de la femme. Dans la gloire de sa personne, il est la lumière du monde. Immédiatement, les pharisiens contestent son titre. Plongé dans les ténèbres quant à la gloire de sa personne en tant que fils, et le considérant seulement comme un homme, il conclut, selon les critères humains, que son témoignage n'est pas vrai parce qu'il rend témoignage de lui-même. Comme l'a dit quelqu'un, il se trouve dans la lumière du jour et demande une preuve formelle que le soleil est levé. Parlant dans la conscience de sa propre gloire comme personne divine, le Seigneur répond « Quoique moi je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens et où je vais. » Il parle en connaissance de la gloire de sa personne, eux parlent selon leur ignorance de Dieu et de celui qui l'a envoyé. Dans l'ignorance et la confiance en soi de la chair, ils prétendent juger, comme dans le cas de la femme. Le Seigneur, dans la gloire de sa personne, révélant le Père en grâce, refuse de juger. Pourtant, il en avait certes la compétence, car il n'agissait pas seul, mais comme celui qui avait toujours la pensée du Père par qui il avait été envoyé. Ils admettaient selon leur loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Par conséquent, son témoignage était valable, car il était appuyé par le Père qu'il avait envoyé et qui rendait aussi témoignage de lui dans les paroles et les œuvres du Seigneur. Les pharisiens révèlent les ténèbres de leur âme en demandant « Où est ton Père ?» S'ils avaient connu le Seigneur, ils auraient connu le Père. Hélas, ils n'ont connu ni le Fils ni le Père. La lumière a manifesté les ténèbres totales de l'homme, une manifestation qui produisit une telle hostilité qu'ils auraient voulu mettre les mains sur lui. Mais son heure n'était pas encore venue. Versets 21 à 30. Citation de l'Écriture. Jésus leur dit donc encore, Moi, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous, vous ne pouvez venir. » Les Juifs donc disaient, « Se tuera-t-il qu'ils disent, là où moi je vais, vous, vous ne pouvez venir ?» Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. » Il lui disait donc, « Toi, qui es-tu ? » Et Jésus leur dit, « Absolument ce qu'aussi je vous dis. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et les choses que j'ai ouïes de lui, moi, je les dis au monde. » Ils ne connurent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que c'est moi, et que je ne fais rien de moi-même, mais que selon que le Père m'a enseigné, je dis ces choses. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Comme il disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Fin de citation. Dans ce second discours, le Seigneur prononce le jugement de ses adversaires. Ils avaient refusé la lumière et choisi les ténèbres. Maintenant, la lumière s'était retirée. Lui s'en allait et eux resteraient pour mourir dans leurs péchés, d'où l'impossibilité pour ces hommes de venir où il allait. Ne croyant pas à son ascension, les Juifs peuvent seulement conclure que le Seigneur allait se tuer. Selon leur raisonnement, en effet, il semble que seul quelqu'un qui est sur le point de sauter la vie peut mettre d'une manière déterminée une limite à celle-ci et déclarer qu'il s'en va. Le Seigneur répond en établissant un contraste solennel entre lui-même, la lumière du monde, et ceux qui ont refusé la lumière. En rejetant Christ, ils ont prouvé qu'ils étaient moralement d'en bas, sous la puissance de Satan. Jésus était moralement du ciel. Ils étaient du monde, dans son éloignement de Dieu, et les ténèbres. Il était dans le monde, comme la lumière, mais non pas du monde moralement. Être sous la puissance de Satan et du monde signifie vivre dans les péchés. Refuser, comme ils le faisaient, de croire en Christ, c'était mourir dans leurs péchés. Le Seigneur a revendiqué être la lumière du monde envoyée par le Père, celui qui est d'en haut et non pas du monde. Qui donc est cette personne remarquable ? Qui es-tu ? Demandent les Juifs. Dans sa réponse, le Seigneur présente ses paroles comme rendant témoignage de lui, car elles sont l'expression parfaite de lui-même. Il peut déclarer « Absolument ce qu'aussi je vous dis ». Les hommes utilisent souvent des paroles pour cacher la vérité les concernant. Qui d'autre que Christ pourrait dire que ces paroles étaient absolument l'expression de lui-même ? Non seulement il fait ce qu'il dit, mais il est ce qu'il dit. En outre, ces paroles n'expriment pas seulement la vérité à son sujet, elles découvrent également le caractère véritable des hommes. Aussi le Seigneur peut-il ajouter « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger ». Ces paroles étaient encore l'expression de la pensée du Père, car il disait au monde les choses qu'il avait entendues de son Père. Ces paroles sont l'expression de lui-même, elles dénoncent le monde et révèlent le Père. Aveuglés par les ténèbres de leurs esprits, ces hommes ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Plus tard, quand ils auraient crucifié le Fils de l'homme, quand tous les résultats solennels de son rejet, annoncés à l'avance par les paroles du Seigneur, se réaliserait, il connaîtrait qu'il est le Fils tout en refusant de croire en lui, et qu'il avait parlé selon que le Père l'avait enseigné et que ses actes étaient en parfait accord avec ses paroles. Il exprimait les paroles du Père et faisait toujours les choses qui plaisaient au Père. Versets 31 à 47. Citation de l'Écriture. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne. Comment dis-tu, toi, vous serez rendu libre ? » Jésus leur répondit, « en vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n'a pas d'entrée auprès de vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Vous aussi, donc, vous faites les choses que vous avez entendues de la part de votre père. » Ils répondirent et lui dirent, « Abraham est notre père. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai ouï de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent donc, « Nous ne sommes pas nés de la fornication, nous avons un père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi je procède de Dieu et je viens de lui. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi n'entendez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas ouïr ma parole. Vous, vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convainc de péché? Si je dis la vérité, vous, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous, vous n'entendez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Fin de citation. Bien que la masse des Juifs rejette complètement la lumière, certains furent convaincus par les paroles du Seigneur. Ainsi nous lisons, comme il disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Aussitôt, le Seigneur explique à ces Juifs qui ont cru que le fait de persévérer dans sa parole est le test révélant ceux qui sont vraiment ses disciples. En demeurant soumis à sa parole, nous manifesterons la réalité de notre position de disciple et nous connaîtrons la vérité, et la vérité affranchie de l'esclavage du péché. Si les versets précédents montrent l'effet des paroles de Christ sur ceux qui croient, le passage qui suit expose la condition de ceux en qui ces paroles ne trouvent pas de place. Rejetant ces paroles, les Juifs sont indignés par ce qu'elles laissent entendre. Ils sont dans la servitude. Ils prétendent à une position privilégiée en tant que postérité d'Abraham et déclarent qu'ils n'ont jamais été dans la servitude de personne, oubliant qu'ils étaient à ce moment asservis aux Romains. Dans sa réponse, le Seigneur passe par-dessus l'histoire de leur relation avec l'homme et révèle leur état devant Dieu. Par leur péché, ils prouvaient qu'ils étaient les esclaves du principe mauvais du péché. Comme esclaves, ils ne pouvaient pas demeurer pour toujours dans la maison de Dieu, figure ici de la place privilégiée qu'ils venaient de s'attribuer. L'esclave peut être renvoyé. Le Fils y demeure pour toujours. Le Fils qu'ils rejetaient pouvait réellement les affranchir. Extérieurement, ils étaient les enfants d'Abraham. En réalité, ils manifestaient une hostilité jusqu'à la mort contre le Fils parce que sa parole n'avait pas d'entrée dans leur cœur, elle n'y pénétrait pas. Le Seigneur établit alors un contraste formel entre lui-même et ceux qui rejettent sa parole. Il était le Fils qui révélait le Père, parce qu'il parlait de ce qu'il avait vu dans son existence éternelle auprès du Père. Malgré leur protestation qu'ils n'avaient pas d'autre Père qu'Abraham, ils prouvaient leur vraie origine par leurs œuvres, comme tous les hommes en fait. D'un côté, ils cherchaient à faire mourir le Seigneur, de l'autre, ils s'opposaient à la vérité. Telles sont les deux grandes caractéristiques de Satan, le meurtre et l'absence de vérité. Et la preuve que les Juifs, tout en étant enfants d'Abraham selon la chair, étaient moralement les enfants du diable. Leur réponse consiste en une prétention encore plus élevée. Non seulement ils sont les enfants d'Abraham, mais un seul est leur père, Dieu. Le Seigneur réfute une telle déclaration, en leur montrant qu'ils n'avaient aucun des traits des enfants de Dieu, mais qu'ils manifestaient les deux grands caractères des enfants du diable. S'ils avaient été les enfants de Dieu, ils auraient été caractérisés par l'amour pour Christ et la réception de la vérité qu'il était venu annoncer. Totalement étrangers à la pensée du Seigneur, ils ne pouvaient pas comprendre le langage dans lequel elle était transmise. Non seulement ils ignoraient la pensée du Seigneur, mais ils manifestaient les deux grands caractères dominants des enfants du diable, le meurtre et le mensonge. Ils refusent de croire le Seigneur qui leur avait dit la vérité. Si lui ne mentait pas, mais disait la vérité, et si eux ne pouvaient pas le convaincre d'erreur, pourquoi ne croyaient-ils pas en lui? Il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Celui qui refuse de croire en Jésus n'est pas de Dieu. Car celui qui est de Dieu entend ses paroles. Versets 48 à 59. Citation de l'Écriture. Les Juifs répondirent et lui dirent : « Ne disons-nous pas bien que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Jésus répondit : « Moi, je n'ai point un démon, mais j'honore mon Père, et vous, vous jetez du déshonneur sur moi. Mais pour moi, je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui cherche et qui juge. En vérité, je vous dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort à jamais. » Les Juifs donc lui dirent : « Maintenant nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, et les prophètes. Et toi tu dis : « Si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera point la mort à jamais. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Et les prophètes sont morts. Qui te fais-tu toi-même ? » Jésus répondit : « Si moi je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui de qui vous dites : il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais menteur, semblable à vous, mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, et s'est réjoui. » Les Juifs donc lui dirent : « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit : « en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Ils prirent donc des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Fin de citation. En réponse à l'affirmation du Seigneur qu'ils n'étaient pas les vrais enfants d'Abraham, il réplique que lui n'est pas un véritable juif, mais qu'il est un samaritain. En réponse à la déclaration qu'ils étaient des enfants du diable, ils disent à Jésus qu'il a un démon. Le Seigneur rejette l'accusation et les avertit qu'ils jetaient du déshonneur sur celui qui honorait le Père et ne cherchait pas sa propre gloire. En outre, qu'ils prennent garde, car il y en a un, le Père, qui défendra l'honneur du Fils et qui jugera tout ce qui le déshonore. Puis, se tournant apparemment vers ceux qui avaient cru, le Seigneur les encourage en disant : « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort à jamais. » Un tel serait délivré non seulement de l'esclavage du péché, mais aussi de la mort, les gages du péché. Dans leur incrédulité, les Juifs s'emparent immédiatement des paroles du Seigneur comme étant une preuve concluante qu'il avait un démon. Ils raisonnent : « Si l'homme qui garde les paroles de Christ ne voit pas la mort à jamais, comment se fait-il qu'Abraham et les prophètes soient morts ? Est-ce que le Seigneur prétend être plus grand qu'Abraham ? Qui se fait-il lui-même ? » Le Seigneur rejette l'insinuation qu'il cherche à se glorifier lui-même. C'est le Père qui glorifie le Fils. Ils prétendent que le Père est leur Dieu, mais donnent un démenti à leur profession en refusant d'écouter ou de garder sa parole. Puis, contraint par leur incrédulité de faire connaître sa gloire, le Seigneur affirme qu'il est effectivement infiniment plus grand qu'Abraham. Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait son jour, et il s'est réjoui. Avec mépris, les Juifs font valoir que Christ n'a pas encore 50 ans et qu'il prétend avoir vu Abraham. La réponse du Seigneur manifeste pleinement sa gloire comme personne divine. Avant qu'Abraham fût, il a toujours existé comme Dieu. Le « Je suis ». Comprenant parfaitement et justement que les paroles du Seigneur étaient une affirmation de sa divinité, les Juifs rejettent ces paroles et prennent des pierres pour le lapider. Avec calme et dignité, Jésus sortit du temple, passant au travers d'eux, et ainsi il s'en alla. Assurément, une preuve de la vérité de ce qu'il avait déclaré, car qui d'autre qu'une personne divine pouvait agir de la sorte?